Chapitre 15. Quand le lundi arriva, c'est un Jean-Julien découragé qui vint retrouver sa nièce devant la maison. Il s'était levé à l'aube pour aller terminer l'impression de cartes postales afin de les livrer à Percé en allant reconduire Clémence. « Aussi bien faire d'une pierre deux coups », lui avait-il dit. « Il va juste falloir que je descende au studio demain très tôt avant qu'on parte. » En le voyant arriver à pied vers 9 heures, Clémence se leva de la chaise sur le balcon où elle s'était assise pour fumer une cigarette. Levant le bras dans les airs pour l'accueillir, elle regarda son oncle s'approcher la mine basse. « Bon, bien, ça va mal, ma fille. Mon auto part pas. Je suis désolée, Clémence, mais je vais être obligée d'attendre que Noé ait le temps de vérifier le problème. Je pourrais pas aller à Percé ce matin. » L'homme secoua sa tête poivre et sel pour s'excuser. Épuisé par une matinée ponctuée de difficultés, il lança un regard rempli de regrets vers sa nièce. Mais Clémence lui sourit affectueusement, malgré son embarras. La jeune femme avait tenu pour acquis qu'elle pourrait attraper l'autobus qui quittait Percé à 12h30 ce jour-là. « Inquiète-toi pas pour moi, mon oncle. Je vais me débrouiller. Il doit bien y avoir un villageois qui va dans ce coin-là. » Clémence saisit donc sa valise et fit ses adieux à Jean-Julien. Elle lui promit aussi de remonter chez lui si sa recherche s'avérait vaine. Le soleil réchauffait déjà son visage et elle inspira l'air pour faire le plein d'énergie avant de quitter son patelin. « J'espère juste que je croiserai pas Jacqueline », songea-t-elle en arrivant près de l'église. Elle resserra sa poigne sur sa valise et se dépêcha de descendre au magasin général. Après tout, s'il y avait un endroit où elle avait des chances de trouver quelqu'un prêt à aller la reconduire à Percé, c'était au commerce Taillefer. Clémence arriva sur le rang principal en même temps que Mathias Gagné, qui recula la tête pour la dévisager longuement. « Tiens, Clémence Gérard, t'es venue voir tes sœurs qui se parlent plus? »« Allô, Mathias? » grimaça la jeune femme sans répondre. Puis elle s'avança pour monter les marches du magasin. À son grand déplaisir, Mathias la suivit, lui qui ne perdrait pas l'occasion de jaser avec une belle femme comme ça. Clémence ouvrit la porte et pénétra rapidement dans le commerce, en espérant mettre un peu d'espace entre eux. Mais l'homme lent d'esprit la talonnait de très près. Il l'accrocha par la manche de sa blouse quand elle tenta de s'éloigner. « Pourquoi t'es au village, c'est pour régler la chicane, hein? »« Non. »« Et pourquoi tu portes une valise? Tu t'en vas ou t'arrives? » « Je m'en retourne chez nous. C'est à Rimouski chez vous? Pourquoi tu restes plus ici? » Mathias posa ses mains sur ses larges hanches en fixant le visage de son interlocutrice, qui cherchait comment se débarrasser de lui. Plus grande que la majorité des femmes, Clémence n'avait pas à lever le menton pour s'adresser au niais. Elle chercha une réponse qui le satisferait lorsque Simone entra à son tour dans le commerce, tenant Béatrice par la main. La mère et la fille plissèrent les yeux de manière identique, éblouies par leur marche au soleil. La jumelle salua sa sœur avec surprise. « Allô, Clémence? Je pensais que vous étiez déjà partie. » Soulagée de ne plus se retrouver coincée avec Mathias, la cadette se pencha pour soulever sa nièce et lui donner un bec sur le nez. « Mon oncle a un problème avec sa machine. Tu vas pas à la grave ce matin? » demanda-t-elle à sa sœur alors que Mathias soufflait son dédain d'être ainsi ignoré avant de filer vers le fond du magasin. Simone hocha la tête et leva la main pour saluer Girola, qui arrivait de l'autre partie du commerce, les bras chargés de paquets de cigarettes. « Plus tard, » répondit-elle, « on a moins d'ouvrage au vigneau, ça fait que j'en profite pour faire mes confitures et mes cornichons. Surtout que je les fais seule maintenant, » eut-elle envie de se plaindre. Mais ce matin, elle avait d'autres chats à fouetter. Tournant la tête vers sa jeune sœur, Simone leva son menton pour chuchoter sur un ton dépité. « Imagine-toi donc que Gustave est arrivé chez nous la tête pleine de poux ce matin et... Yark !» l'interrompit Rosalie qui s'était approchée sans que les deux femmes la voient. « Ça m'écœure des poux !» Simone leva les yeux au ciel. À côté de sa sœur Clémence, elle paraissait bien plus âgée que ses 28 ans. Les épreuves de la dernière année avaient creusé les joues de la femme et entre ses yeux noisettes, deux rides s'étaient installées. Celle qui riait beaucoup auparavant, qui prenait la vie du bon côté, éprouvait plus de difficultés à faire confiance et à relâcher la tension de ses épaules. Tandis que Rosalie continuait d'émettre ses commentaires sur le dégoût que lui inspirait la tête du fils de Géraldine, Simone décida de s'éloigner pour aller chercher du cacao. Au même moment, la jeune marchande eut la mauvaise idée de faire une remarque sur la famille Veillette. C'est certain que, malpropres comme ils sont dans cette maison-là, c'est pas étonnant que les enfants soient pleins de bébites, marmonna Rosalie en cachant son fou rire derrière sa main. Or, mal lui en prit car Simone revint en vitesse près d'elle et elle leva son index devant son visage. Tu sauras, ma fille, que c'est pas tout le monde qui a ta chance. C'est facile de juger les autres quand papa s'occupe de tout. Mais tu vas voir, quand tu vas te marier, que la vie peut parfois prendre une autre tournure. Les épreuves, on les prévoit pas, et parfois, ça nous tombe dessus comme une tonne de briques. Le ton sec de Simone était si inhabituel que Clémence et Rosalie restèrent bouche bée, jusqu'à ce que cette dernière se détourne, le rouge aux joues. Elle n'était pas méchante, juste un peu commère. En plus, Simone savait, elle aussi, que l'époux appréciait les endroits crasseux. La femme ne pouvait donc pas nier que la maison de Géraldine était un lieu parfait pour la prolifération des affreuses bestioles. Réalisant que sa réplique était peut-être un peu sévère, elle souleva Béatrice et précisa d'une voix radoucie « As-tu de l'huile wintergreen? Je vais en acheter pour Géraldine. » Rosalie se pencha pour fouiller sous le comptoir, sans daigner regarder la cliente. Elle n'avait pas du tout apprécié se faire réprimander ainsi, et n'avait pas l'intention de se montrer aimable. Elle sortit la petite bouteille brune contenant l'huile demandée sans un mot. Clémence patientait derrière sa sœur en souriant à sa nièce, qui se cachait dans la jupe de Simone et ne faisait qu'en sortir un œil quand elle croyait que sa tante l'ignorait. Riant aux éclats devant ce jeu impromptu, Béatrice attira les regards émus de quelques clients, heureux de voir du bonheur autour de Simone. Après avoir glissé la bouteille dans sa besace, la femme ouvrit la porte pour s'éclipser. Elle salua à la ronde en précisant « À bientôt, Rosalie ». Mais la jeune femme maugréa une réponse, toujours offusquée d'avoir été ainsi remise à sa place. Clémence décida de suivre son aînée puisque le magasin était presque désert. Elle ne connaissait pas très bien les deux hommes au fond du commerce et n'avait pas l'intention d'aller quémander un service à des inconnus. Sur le balcon du magasin, elle soupira à fendre l'âme pendant que sa sœur déposait sa fille sur le sol. « Alors, s'informa Simone, t'es obligée de changer d'idée? Vas-tu rester au village jusqu'à demain comme prévu? » Clémence secoua la tête un peu découragée. Elle regardait autour pour trouver quelqu'un qui pourrait la reconduire à Percé. Mais les hommes se trouvaient en mer ou dans les champs pour la plupart, et elle ne voyait que quelques femmes qui se hâtaient de descendre sur la plage. « Je vais essayer de trouver une âme charitable qui pourrait venir me reconduire à Percé. L'autobus part à 12h30, j'ai encore un peu de temps. Sinon, je vais être obligée d'attendre que l'auto de mon oncle soit réparée. » Déçue, elle commença à marcher vers le garage de Noé Lévesque. Elle voyait une carriole arrêtée devant la porte du commerce. Peut-être que c'était quelqu'un qui pourrait l'aider. Clémence annonça donc son intention à Simone, et à son grand étonnement, celle-ci lui répondit « Je vais y aller, moi, te conduire à Percé si tu y tiens tant. » « Hein? Tu ferais ça pour vrai? » « Ben oui, j'irai à la grave cet après-midi. En plus, ça fait longtemps que je suis pas sortie du village. Ça va me faire du bien. » Heureuse, Clémence enlaça sa sœur au moment où Émile remontait la côte Gaspé. La châtaine le regarda avec embarras, honteuse des émotions qu'elle avait ressenties l'avant-veille à son contact. Une casquette sur sa tête blonde, le jeune homme fumait une cigarette en discutant avec un vieux pêcheur. Il marchait d'un pas rapide, et ce n'est qu'arrivé à la hauteur des deux sœurs qu'il les aperçut. Clémence plissa un peu les yeux pour détailler l'homme costaud. À la lueur du jour, elle voulait s'assurer que son intérêt avait bien disparu et qu'il s'agissait seulement du résultat d'une soirée désastreuse. « Oh, allô Clémence! Bonjour, Madame la Violette! » Aux côtés de sa cadette, Simone ne fit que hocher la tête pour saluer l'homme engagé par son beau-frère. Elle ne connaissait guère ce jeune qui côtoyait sa jumelle tous les jours. Quand la famille d'Émile habitait à Lens-à-la-Joie, elle avait fréquenté ses frères aînés à l'école du village jusqu'à ce qu'ils partent en mer. Sans qu'ils aient été de grands amis, elle avait toujours aimé l'humour des garçons pelletiers. Puis ils avaient déménagé à Gaspé. Émile étant pas mal plus jeune que les jumelles, les filles n'avaient jamais eu de lien avec lui. Et Simone n'avait pas non plus l'intention d'en créer un. Constatant qu'Émile semblait désirer parler à sa sœur, la femme prit sa fille dans ses bras et précisa « Je vais préparer la carriole, Clémence, et je viens te chercher ici dans une demi-heure, si ça te va. » Clémence hocha la tête en se demandant pourquoi elle ne suivait pas Simone. mais Émile se mit à raconter une histoire drôle sur une morue qui semblait vivante, même une fois qu'il lui eut coupé la tête. Je te le dis, Thibault et Cléophas n'avaient jamais vu ça. Le corps de la grosse maudite s'est mis à gigoter sur ma table de coupe. À un moment donné, elle a même sauté à terre. Mais voyons donc, rigola Clémence en jetant un coup d'œil dubitatif sur l'autre pêcheur qui accompagnait le blond. Mais ce dernier hocha vigoureusement la tête de haut en bas. Il sourit, et la jeune femme retint une moue de dégoût devant les dents gâtées de l'homme maigre d'une cinquantaine d'années qui habitait plus haut, dans la montagne. Oubliant sa gêne quelques secondes, Émile mit sa main sur le bras de Clémence et continua. « C'est juste quand je l'ai fendue de haut en bas qu'elle a enfin fait la morte. Mais encore là, j'étais pas certain. » La femme déglutit en réalisant que malgré l'odeur de poisson que dégageait le jeune homme, et même si ses ongles étaient tachés de sang et de terre, la sensation ressentie la veille au soir se reproduisit. Fronçant les sourcils, elle recula d'un pas, et Émile s'enquit timidement. « Tu pars à quelle heure? » « Simone va venir me reconduire à Percé dans 30 minutes environ. »« Ah bon? Tu vas revenir bientôt? » Malgré sa timidité avec les femmes, Émile avait envie de montrer l'intérêt qu'il éprouvait envers Clémence. En la voyant seule et pensive sur le bout du quai l'avant-veille, il s'était souvenu à quel point il l'avait trouvée jolie quand il vivait chez Madeleine et Freddy. Le jeune s'était couché en se demandant si la relation qu'avait entretenue Clémence avec cet homme à Rimouski pouvait reprendre. Elle avait semblé bien triste. Les yeux fixés sur le plafond de bois de la chambre qu'il louait à l'entrée du village, il avait mis une longue heure à s'endormir, malgré sa fatigue. « C'est certain que j'haïrais pas ça qu'elle revienne vivre dans le coin. Il faudrait que je demande à Freddy s'il pense que ça pourrait se produire. » Émile savait pourtant que la moindre interrogation à son employeur justifierait de sa part un questionnaire en règle. Freddy voudrait connaître les raisons de son intérêt envers sa belle-sœur. Il ne pourrait pas lui cacher qu'il la trouvait à son goût. Le jeune homme avait fini par s'endormir avec la tête remplie d'images de la belle Clémence. Son corps élancé était loin de lui être indifférent. Alors il était bien heureux de la croiser de nouveau avant son départ du village. Déçu, il laissa tomber. « Dommage que tu t'en ailles. On n'a pas eu beaucoup le temps de jaser. Qu'est-ce que tu veux, mon travail m'attend à l'hôpital? » mentit Clémence, en réalisant qu'elle n'avait pas envie de discuter de nouveau de son amoureux et de son intention d'aller à Québec pour le retrouver. Plutôt que de s'éterniser auprès d'Émile, elle le salua donc et se dépêcha d'aller rejoindre son oncle Jean-Julien. Assise sur une chaise devant le petit studio du photographe, Clémence tenta de se convaincre que les tressaillements ressentis au contact d'Émile Pelletier le samedi n'étaient dus qu'à sa vulnérabilité actuelle. « Je vais te retrouver bientôt, Sylvestre, mon amour. Tu vois comment je suis fragile lorsque tu me laisses trop longtemps? » murmura-t-elle, en ne pouvant s'empêcher de suivre des yeux Émile, qui continuait sa route vers sa baraque, plus loin sur le chemin principal. Depuis quelques étés, Palmyre et Rosario passaient presque toutes leurs soirées assis sur le balcon de la Maison Bleue. Quand l'automne s'annonçait, les deux aînés continuaient ainsi, tant que les soirées n'étaient pas trop fraîches. Ils appréciaient le mois de septembre qui couvrait la montagne de ses couleurs éclatantes, tout en libérant l'air de cette chaleur suffocante. C'est donc les yeux remplis de larmes que l'ancien pêcheur fit une annonce déchirante à Palmyre, le soir du départ de Clémence pour Rimouski. « Mon gendre a décidé de déménager la famille à Gaspé. »« Quoi ?» J'ai dit... » Palmyre tourna sa tête et replaça ses lunettes dorées sur son visage, comme si cela lui permettait de mieux assimiler la nouvelle. « J'ai compris, Rosario. Comment ça, Gaspé? Qu'est-ce qu'il veut aller faire là, Claude? » « Il veut aller rejoindre ses frères qui ont des barges. Ça a l'air que deux pêcheurs ont décidé de retourner à Montréal alors Claude ramène ma fille dans son village natal. Il dit que cet hiver, il va travailler à l'usine et au printemps, il va avoir sa place sur le bateau d'un membre de la famille. Il est tanné de racler les fonds de tiroir à partir du mois de novembre. » À l'entendre, on vit dans la misère et la seule manière de s'en sortir, c'est de se trouver une place sur une barge. Ça fait qu'il vend la maison à son cousin Lauzon. Le gendre de Rosario vivait au village depuis son mariage avec sa fille Lucie. Âgé de 45 ans, il œuvrait comme terrien pour la compagnie Robin depuis des décennies. Lucie est pas tellement d'accord et elle a bien de la peine, mais c'est lui qui décide. Comme elle m'a dit, depuis que leurs enfants sont mariés et éparpillés un peu partout en Gaspésie, elle n'a pas d'argument valable à fournir à Claude. Bien voyons, puis toi, me semble que le voilà l'argument, riposta amèrement Palmyre. Rosario baissa son menton sur ses mains usées par les années et il secoua sa tête fournie. Moi? Lucie sait bien que je veux pas partir d'ici. Mais c'est de même la vie. J'ai pas le choix de suivre. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Le vieil homme avait le cœur dans l'eau à l'idée de quitter son village et Palmyre. Il se sentait tellement vulnérable que les mots restaient bloqués au niveau de sa gorge chaque fois que sa fille ou son gendre abordait la question. Rosario ressentait tant d'impuissance devant cette décision inattendue qu'il ne savait comment réagir adéquatement. Lucie l'avait assuré qu'ils auraient une plus grande maison, qu'elle prendrait toujours soin de lui, mais tout ce que l'aïeul avait compris, c'est qu'il quittait l'anse à la joie. Son monde. Sa vie de toujours. Palmyre pleura ce soir-là, comme elle ne l'avait pas fait depuis la mort de son Arthur. Couchée dans son lit, les mains en prière sur sa poitrine, la vieille femme demanda au Seigneur de venir la chercher. « Il y a toujours bien des limites à endurer des départs. » chuchota-t-elle en couvrant son visage de ses mains tremblantes. À la suite de cette annonce, l'octogénaire eut tant de peine qu'elle ne put même pas en parler à sa petite fille. Madeleine avait déjà assez de préoccupations sans avoir à prendre soin des états d'âme de sa grand-mère, songeait tristement Palmyre. Le mardi matin, Clémence prit le train pour la ville de Québec, même si elle n'avait jamais mis les pieds plus loin que trois pistoles. Déterminée à retrouver Sylvestre, elle était passée chez son ancien employeur tôt le matin, et malgré les réticences de M. Henri au progrès du Golfe, elle avait obtenu l'adresse de la famille Ballant. « Je vous suggère de laisser tomber cette idée, jeune femme. On court pas comme ça après les hommes, surtout ceux qu'ils méritent pas. » Clémence n'avait pas renchéri, lasse de toujours devoir se justifier. Elle, qui ne s'était jamais questionnée sur la vie des Haïtiens, des Asiatiques, des Espagnols et des gens des autres nationalités qui vivaient au Québec, il avait fallu qu'elle rencontre cet homme merveilleux pour réaliser à quel point il y avait du beau dans ces échanges. Mais elle savait bien que ses concitoyens étaient loin d'avoir la même perspective en matière d'acceptation. La veille au soir, dès son retour à Rimouski, Clémence était allée rencontrer la sœur responsable de l'hôpital pour l'aviser qu'elle prolongerait son absence de quelques jours. « Je vous faisais confiance, mademoiselle Gérard », avait sèchement répondu la femme. « Bien sûr, je suis désolée, mais je crois avoir attrapé la grippe de ma nièce, malheureusement », avait menti Clémence. « Je pense qu'après 2 jours de repos, je serai sur pied ». Clémence avait eu son sentiment de culpabilité quand la sœur avait hoché la tête en précisant qu'elle ne lui octroierait pas une journée de plus. « Si elle connaissait mes projets, » pensa la jeune femme en regardant le quai de la gare qui s'éloignait, « nul doute que je perdrais mon emploi. Mais j'ai pas le choix. C'est mon bonheur qui est en jeu. » murmura-t-elle en soufflant dans la fenêtre du wagon pour y tracer un cœur. Le train Océan devait mettre plus de 5 heures pour rejoindre Québec. Clémence s'installa donc confortablement et sortit de son sac un livre de poésie qu'elle déposa sur ses genoux. Or, elle avait beau tenter de s'immerger dans le texte d'Alfred Desrochers, ses pensées ne cessaient de virevolter entre l'espoir et le désarroi. Incapable de se concentrer, elle se résigna à fermer les yeux pour essayer d'apaiser son agitation. Après quelques heures à sommeiller ou à planifier ses recherches dans la grande ville, Clémence mit enfin les pieds à la gare du Palais. Émerveillée par la beauté du bâtiment, la jeune femme observa l'endroit, inauguré en 1916. « C'est pas mal moins désuet qu'à Rimouski », observa-t-elle la tête levée vers le plafond. « On dirait un château. » Après quelques minutes à scruter la gare d'un regard fasciné, la jeune femme déposa sa petite valise sur le sol pour consulter le papier froissé qu'elle avait glissé dans son sac à main en sortant de l'imprimerie Vachon. Autour d'elle, les jeunes hommes ne se gênaient pas pour la dévisager. Avec surprise, elle s'aperçut vite que presque tous les porteurs étaient des hommes noirs, et elle commença à les regarder attentivement. Peut-être que Sylvestre travaillait ici et qu'il pourrait se retrouver avant même qu'elle ne débute ses recherches. Pendant 15 minutes, Clémence se retira dans un coin discret et observa minutieusement les hommes qui approchaient les voyageurs pour prendre leurs bagages en échange de quelques sous. Au bout d'un moment, elle haussa les épaules et sortit pour trouver un taxi. Devant la gare s'étalait une grande place verdoyante, et Clémence s'y dirigea rapidement en constatant les quelques voitures de taxi stationnées. Se glissant sur la banquette arrière du premier véhicule disponible, elle annonça l'adresse au conducteur, sans cesser de regarder le va-et-vient des citoyens de Québec. « 340 rue Lavigueur, je vous prie. » Le chauffeur maigre tourna un regard suspicieux vers Clémence.
« Vous êtes bien certaine de ça, ma petite demoiselle? »
« Oui, rue Lavigueur, » répéta-t'elle naïvement.
« C'est juste que c'est pas une place pour des femmes de votre genre, ce coin-là. »
Il n'ajouta pas que le petit montant ridicule de 25 cents qu'elle lui devrait à la fin de la course n'était rien pour lui donner envie de se rendre dans ce quartier pauvre de la ville. Clémence grimaça en hésitant à demander ce que ce commentaire signifiait. Mais comme l'homme ne semblait pas vouloir en démordre, elle précisa « Je vais chez un ami. »
« C'est parce qu'il y a juste des gens de couleur dans ce quartier-là. J'aime pas bien ça aller là. C'est pas loin de la côte Badelard. Je pense que vous avez une mauvaise adresse. » insista le chauffeur.
La jeune femme inspira pour calmer sa colère et s'avança sur le devant de la banquette. Elle prit une voix ferme pour préciser « Je suis certaine que c'est la bonne adresse. Pouvons-nous partir maintenant ou vous préférez que je prenne la voiture derrière vous? » Le conducteur, qui n'avait pas l'intention de laisser échapper une course, renifla dédaigneusement en hochant la tête. « Tant pis pour cette visiteuse. » L'homme d'une soixantaine d'années mit la main sur son volant et, sans dire un mot, s'engagea sur la route. Pendant qu'il fumait sa pipe et Clémence sa cigarette, ils n'échangèrent pas une parole. « Au moins, » songea la jeune femme en ricanant intérieurement, « il m'a pas défendu de fumer sous prétexte que ça se faisait pas pour une femme. » Elle regarda par la fenêtre à moitié baissée et s'étonna de voir autant d'activité dans les rues et sur les trottoirs. Chaque fois que la voiture s'approchait trop près d'une autre, elle posait sa main en panique sur le banc du chauffeur et lâchait un petit cri d'effroi.
« Arrêtez de vous énerver de même, je sais conduire !»
ronchonna à maintes reprises l'homme exaspéré. « Mais vous roulez très vite !» répliquait alors Clémence avec un regard sévère.
« Pfff, vous devez venir de la campagne, vous !»
« De Rimouski, monsieur.
C'est ce que je disais. »
Le duo se tut, puis la femme ne put s'empêcher de demander s'il pouvait passer devant le château Frontenac.
« C'est un détour, ça va coûter plus cher. »
Clémence ouvrit discrètement son portefeuille afin de vérifier sa fortune avant d'insister. « Allons-y, monsieur. » L'homme haussa ses épaules en se disant que ce serait toujours quelques sous de plus dans ses poches. Lorsque Clémence aperçut le château pour la première fois de sa vie, elle plaqua sa main devant sa bouche avant de s'exclamer « Oh mon Dieu, c'est beau, j'aurais jamais imaginé! »
« Oui, madame, je vous dis qu'on n'a rien à envier au vieux continent. La ville de Québec est la plus belle sur la planète. »
Clémence retint un sourire devant cet énoncé enflammé, et comme elle ne voulait pas payer le chauffeur pour des minutes à regarder le château, elle se promit de revenir avec Sylvestre. On pourra marcher sur la terrasse du Frein. C'est tellement romantique. Enfin, lorsque la voiture tourna sur la rue Lavigueur, où habitait la famille Ballant, et que le conducteur stationna devant le numéro 340, Clémence sentit ses mains devenir moites et son cœur exploser dans sa poitrine. Dans moins de 5 minutes, elle tiendrait son amoureux dans ses bras. Tendant le montant de la course au conducteur, qui prit de nouveau la peine de l'aviser de la dangerosité du quartier, elle s'empressa de sortir de la voiture.
« Merci et bonne journée, monsieur.
Vous désirez que je vous attende ?»
demanda l'homme avec mauvaise foi. Mais Clémence lui fit un sourire radieux avant de refuser.
Ses yeux bleus brillants d'anticipation.
Elle allait revoir son amoureux et rien ne l'empêcherait de le ramener avec elle à Rimouski. Rien. À nous deux, mon Sylvestre. Dès qu'elle mit les pieds sur le trottoir, Clémence eut droit à des regards de travers de la part des gens qui passaient près d'elle. La plupart étaient pauvrement vêtus, et quelques enfants noirs qui jouaient aux billes accroupis dans la rue arrêtèrent leurs activités pour la suivre des yeux. Clémence leva la main bien haut pour frapper à la porte de bois dont le bas était endommagé par les années. La femme noire de forte taille qui lui ouvrit avait un visage rond comme une lune, et même si la résidente devait avoir au moins 60 ans, elle n'arborait pas de rides. En voyant Clémence, elle croisa les bras sur le devant de sa poitrine affaissée.
« Oui ?»
Clémence sentit son sourire un peu plus vacillant devant le visage fermé de celle qu'elle supposait être la mère de son amoureux. Mais déterminée à ne pas se laisser intimider par la situation, elle tendit la main, que l'autre prit avec un léger recul. « Bonjour, Madame Ballant. » Surprise de constater que Clément semblait la connaître, la dame âgée leva son menton avant de demander avec un accent créole prononcé « Qu'est-ce que vous me voulez ?»« J'ai rien fait. » »« Non, bien sûr que non. » Clément sentit son assurance faiblir devant l'hostilité évidente de la mère de Sylvestre. Mais déterminée à ne pas se laisser impressionner par l'attitude peu accueillante de la femme, elle demanda « Je suis Clémence Gérard. Je suis une amie de votre fils Sylvestre. Il vous a peut-être parlé de moi ?»«
Sylvestre ?
Vous êtes bien Madame Ballant, n'est-ce pas ?» La jeune se mit à transpirer sous sa robe de coton marine et constata que plusieurs enfants se tenaient à présent près d'elle pour écouter la conversation. Clémence réalisa qu'elle se retrouvait seule dans un quartier peu recommandable, devant la mère de son amoureux, qui n'avait pas l'intention de lui rendre les choses faciles. Un petit bonhomme d'à peine 5 ans aux grands yeux d'ébène cria « Oui, Madame Ballant, c'est elle !» La femme le réprimanda aussitôt en créole, et le gamin fit la moue. Puis elle s'avança pour sortir sur le trottoir et ferma derrière elle la porte du logement. « Vous lui voulez quoi, mon fils ?» « Il doit pas d'argent en personne, je suis certaine de ça. C'est un bon garçon. » Clémence fronça les sourcils en entendant ces paroles. Elle n'avait jamais mentionné d'argent, alors elle posa sa petite valise sur le trottoir de bois et précisa « Bien sûr, je vous répète que Sylvestre est mon ami. Je suis venue pour lui parler. Croyez-vous que ce soit possible ?»«
Non. »«
C'est que je le connais très bien, vous savez, j'habite aussi à Rimouski. » Nous avons passé beaucoup de temps ensemble dans les derniers mois. Clémence espéra que ces quelques mots fassent comprendre à Madame Ballant la nature de sa relation avec son fils. Et effectivement, comme si cette dernière mesurait la portée des paroles de Clémence, elle grimaça et d'un ton sec et empreint d'animosité, elle lança « C'est votre faute alors, si je comprends bien. Je savais qu'il ne m'avait pas dit la vérité. » « Ma faute ?» questionna la plus jeune interloquée. « Votre faute s'il a décidé de quitter une bonne job pour s'en aller travailler sur un bateau à Montréal. » Clémence était tellement sonnée par la nouvelle énoncée par Madame Ballant qu'elle échappa son sac à main sur le sol, tandis que le petit garçon s'empressait de le lui remettre. « Mais je comprends pas. Il n'est pas marin, Sylvestre, il est imprimeur. Je sais bien. Mais il voulait rien entendre. J'ai pas eu d'explication, ses frères et sœurs non plus. » Le ton de Madame Ballant était empli de colère et son regard furieux. Elle portait un foulard rouge sur ses cheveux crépus et tout son être laissait paraître son irritation. Clément sentit ses yeux se remplir de larmes et demanda seulement « Il doit revenir quand ?»« Revenir ? » Il nous a informé qu'il s'embarquait sur un cargo à destination du vieux continent. « On reverra pas notre garçon avant un bon moment. » « Ça fait que j'ai pas envie de continuer à vous jaser, mademoiselle. » La femme ouvrit la porte de son logement et cria quelque chose aux enfants qui s'éparpillèrent aussitôt dans la rue. Puis elle referma brusquement, sans ajouter un mot. Clémence resta sur le trottoir, la bouche tremblante, et les larmes qu'elle retenait roulèrent sur ses joues rougies. Elle s'avança pour s'appuyer contre le mur de briques en sanglotant, le visage dans les mains. Elle avait cru qu'elle pourrait convaincre Sylvestre de revenir avec elle à Rimouski, et voilà qu'il l'avait quittée pour toujours.